À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. I am a voice no one can hear. I am drifting for the years.
De l'intimité à la révolte, de l'enfance à la vieillesse, entre rire et larmes, la vie comme elle s'écrit. C'est tous les mois, dans Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, présentée par Virginie Lounoni. Et en ce mois de février, nous allons parler féminisme. Non pas parce que c'est à la mode, en fait c'est à la mode depuis que le masculinisme existe, mais c'est parce que c'est d'actualité, précisément parce que le patriarcat s'écroule. Joie, sortons le champagne. Donc le féminisme est aussi ancien que l'oppression des femmes, même si le mot, avec le sens positif qu'on lui attribue aujourd'hui de lutte des femmes pour leur émancipation, n'apparaît que tardivement, en 1882 pour être précise, sous la plume de la journaliste, écrivaine et militante Hubertine Auclair. « J'ai été, dit-elle, presque en naissant, une révoltée contre l'écrasement féminin, tant la brutalité de l'homme envers la femme, dont mon enfance avait été épouvantée, m'a de bonne heure déterminée à revendiquer pour mon sexe l'indépendance et la considération. » Et dans ce combat, dans ce combat des femmes, la littérature tient une place essentielle, parce que la littérature est mémoire et... lorsque toutes les forces de la société sont tendues pour invisibiliser le combat des femmes, garder une trace donne un pouvoir considérable. Et dans cette littérature féminine, on trouve de tout, des textes philosophiques, des contes populaires, des traités d'herboristerie et de médecine, et surtout des romans, un genre que les femmes ont largement contribué à façonner, et même, pourrait-on dire, un genre que une femme, sous sa forme intimiste telle que nous le connaissons aujourd'hui, a inventé, c'est la princesse de Clèves, Madame de Lafayette. Pourquoi est-ce qu'elle l'a inventé? C'est parce qu'avant elle, il y a des romans picaresques, c'est des romans baroques, ça se bat dans tous les coins, et vas-y que je t'enfourne et que je t'empaille, etc., etc. Et elle, elle écrit quelque chose qu'elle appelle modestement un petit roman intime. Un petit roman intime qui raconte une histoire de couple telle que ça ne se racontait pas du tout à l'époque, puisque Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, est une jeune noble et qu'à l'époque, les femmes étaient mariées commercialement, on pourrait dire, elle faisait partie d'un échange commercial, un corps contre une dot ou un titre contre une dot, etc. Tout ça, c'était du marchandage. Et donc, il n'était pas question d'amour. Or, elle considère qu'elle doit fidélité à son époux et au moment où elle tombe amoureuse d'un jeune Godelureau, le prince de Nemours, il était bien prince, je crois, oui, le prince de Nemours, au moment où elle tombe redingue de ce gars, elle va le dire à son époux. Et ça ne se fait pas. Et c'est là que l'histoire commence. Les livres de femmes balayent le monde. Toute la littérature est entièrement tissée de textes de femmes, l'indienne Vandana Shiva, la caribéenne Maryse Condé, l'égyptienne André Chédid, la camerounaise Calixte Belaya, la néo-zélandaise Janet Frame, la sénégalaise Fatou Diomé, dont Marine Le Pen s'est pris dans les gencives une remarque sur un plateau télé qui lui a bien fait mal, parce que l'autre imbécile s'en allait contre les migrants, etc. Et Fatou Diomé lui a dit « On voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui pillent nos pays ». Donc tous ces livres ont nourri la pensée, pas seulement des femmes, mais de de tous et toutes. Ils ont contribué à repenser le monde et à le transformer. Et donc, c'est à la gloire de tous ces livres qu'est consacrée cette très modeste émission pour laquelle j'ai demandé à deux invités, René Christine et Tancrède, deux fidèles de l'atelier du jeudi soir, de puiser dans leur bibliothèque une auteure qui l'a marquée et d'en lire, de lire un extrait de son œuvre. Et puis nous aurons une petite intervention téléguidée d'une troisième personne de l'atelier, Mireille. Mais dans un premier temps, je vais laisser la place à René Christine.
Bonjour. Permettez-moi de vous emmener en voyage littéraire auprès de Colette. Elle a été mon premier coup de cœur d'adolescente, déjà et toujours, conquise par sa solitude rebelle, sa subtilité féminine, la force de la liberté par l'écriture. Extrait de son roman La Vagabonde, ainsi s'ouvre la richesse, le rideau de sa pensée. La solitude, la liberté, mon travail plaisant et pénible de mime et de danseuse, les muscles heureux et las, le souci nouveau et qui délasse de l'autre, de gagner moi-même mon repas, ma robe, mon loyer, quel que fût tout de suite mon lot, mais aussi la défiance sauvage, le dégoût du milieu où j'avais vécu et souffert, une stupide peur de l'homme, des hommes et des femmes aussi. Et cette bizarrerie encore qui me vint très vite de ne me sentir isolée, défendue de mes semblables, que sur la scène, la barrière de feu me gardant de tous. Il est déjà 1 heure. Qu'est-ce que j'attends ? Un petit coup de fouet bien cinglant pour faire repartir la bête butée. Mais personne ne me le donnera, puisque je suis toute seule. Comme on voit bien, dans ce long cadre qui étreint mon image, que j'ai déjà l'habitude de vivre seule. Pour un visiteur indifférent, pour un fournisseur, même pour Blandine, ma femme de chambre, je redresserai cette nuque qui flanche, cette hanche qui se repose de travers, je nouerai l'une à l'autre ses mains vides. Mais cette nuit, je suis si seule. Seule ? J'ai l'air de m'en plaindre, vraiment. Si tu vis toute seule, m'a dit Brague, c'est parce que tu le veux bien, n'est-ce pas ? Certes, je le veux bien, et même, je le veux, tout court. Seulement voilà, il y a des jours où la solitude, pour un être de mon âge, est un vin grisant, qui vous saoule de liberté, et d'autres jours où c'est un tonique amer, et d'autres jours où c'est un poison qui vous jette la tête au mur. Ce soir, je voudrais bien ne pas choisir. Je voudrais me contenter d'hésiter et ne pas pouvoir dire si le frisson qui me prendra en glissant entre mes draps froids sera de peur ou d'aise. Seul, et depuis longtemps, car je cède maintenant à l'habitude du soliloque, de la conversation avec la chienne, le feu avec mon image. C'est une manie qui vient aux reclus, aux vieux prisonniers, mais moi, je suis libre. Et si je me parle en dedans, c'est par besoin littéraire de rythmer, de rédiger ma pensée. J'ai devant moi, de l'autre côté du miroir, dans la mystérieuse chambre des reflets, l'image d'une femme de lettres qui a mal tourné. On dit aussi de moi que je fais du théâtre, mais on ne m'appelle jamais actrice. Pourquoi ? Nuance subtile, refus poli de la part du public et de mes amis eux-mêmes de me donner un grade dans cette carrière que j'ai pourtant choisie. Une femme de lettres qui a mal tourné. Voilà ce que je dois pour tous demeurer. Moi qui n'écris plus, moi qui me refuse le plaisir, le luxe d'écrire. Écrire, pouvoir écrire, cela signifie la longue rêverie devant la feuille blanche, le griffonnage inconscient, les jeux de la plume qui tournent en rond autour d'une tache d'encre qui mordit le mot imparfait, le griffe, le hérisse de fléchette, l'orne d'antenne de pattes, jusqu'à ce qu'il perde sa figure lisible de mots, muet en insecte fantastique, envolé en papillon fée. Écrire, c'est le regard accroché, hypnotisé par le reflet de la fenêtre dans l'encrier d'argent, la fièvre divine qui monte aux joues, au front, tandis qu'une bienheureuse mort glace sur le papier la main qui écrit. Cela veut dire aussi l'oubli de l'heure, la paresse au creux du divan, la débauche d'invention d'où on sort courbaturé, abêti, mais déjà récompensé, et porteur de trésors qu'on décharge lentement sur la feuille vierge dans le petit cirque de lumière qui s'abrite sous la lampe. Écrire, verser avec rage toute la sincérité de soi sur le papier tentateur si vite, que parfois la main lutte et renâcle, surmenée par le dieu impatient qui la guide, et retrouver le lendemain, à la place du rameau d'or, miraculeusement éclos en une heure flamboyante, une ronce sèche, une fleur avortée. Écrire, plaisir et souffrance d'oisifs, écrire, j'éprouve bien de loin en loin le besoin, vif comme la soif en été, de noter, de peindre. Je prends encore la plume pour commencer le jeu périlleux et décevant, pour saisir et fixer sous la pointe double et ployante le chatoyant, le fugace, le passionnant adjectif. Ce n'est qu'une courte crise, la démangeaison d'une cicatrice. Il faut trop de temps pour écrire, et puis je ne suis pas Balzac, moi. Le conte fragile que j'édifie s'émiette quand le fournisseur sonne, quand le bottier présente sa facture, quand l'avoué téléphone et l'avocat, quand l'agent théâtral me mande à son bureau pour un cachet en ville chez des gens tout ce qu'il y a de bien, mais qui n'ont pas pour habitude de payer les prix forts. Or, depuis que je vis seule, il a fallu vivre d'abord, divorcer ensuite, et puis continuer à vivre. Tout cela demande une activité et un entêtement incroyable. Et pour arriver où ? N'y a-t-il point pour moi d'autre havre que cette chambre banale en Louis XVI de Camelot ? D'autre halte que ce miroir infranchissable où je me bute front contre front ? Demain, c'est dimanche. Matinée et soirée à l'Empirie Clichy. 2 heures déjà. C'est l'heure de dormir pour une femme de lettres qui a mal tourné.
Merci René-Christine. C'est une liberté chèrement gagnée, hein, la liberté des femmes. On va écouter une chanson choisie par une troisième personne de l'atelier. Je dis troisième parce qu'il y aura Tancrède tout à l'heure, mais Mireille s'est fait représenter par Anne Sylvestre.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessein, quoi, il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper, juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure, petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure, petit voisin, petit professeur, main baladeuse, petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entre netteuse. Il y peut rien si ça l'excite, et qu'est-ce qu'elle a, c'est hypocrite, elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier, juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade, petite plaisanterie de salon, petite rigolade. Fermer les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance, et trembler qu'une fois de plus il recommence. Inconvenance. Quoi si on peut plus plaisanter. On n'a plus qu'à se la faire couper. Non, c'est vrai, il n'est pas un monstre. Et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Bon, Tancred, tu vas nous redonner un petit peu de tonus et de joie, là.
Alors, du tonus et de joie, je ne pense pas avec Constance Debray. Vraiment, je ne pense pas. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais Constance Debray, donc c'est le nom, vous avez dû en entendre parler, en fait, c'est la petite fille de Michel Debray, qui était le premier ministre de la Ve République, donc qui est issue d'une grande lignée, d'une famille de gens qui étaient proches de l'État. Et elle, en fait, toute sa jeunesse était un peu continuée cette lignée-là. Elle a été avocate, elle a été vraiment dans tout le Gotha parisien. Puis après, un jour, elle décide de tout, mais vraiment de tout lâcher, son métier, son mari. Elle annonce à tout le monde qu'elle est homosexuelle, qu'elle veut écrire. Et elle abandonne vraiment tout son statut, tout ce qu'elle avait construit auparavant. Quelque chose de très, très radical. Et cette radicalité-là, on la retrouve dans sa littérature. Elle est, en tout cas, ses trois premiers livres sont vraiment quelque chose de très représentatif de ce qu'on appelle l'autofiction, donc où elle reprend directement, elle prend matière dans sa vie pour raconter et pour faire ses livres. Et moi, ce que je vais vous dire, en tout cas vous lire, c'est deux petits passages de son deuxième livre qui s'appelle Love Me Tender et qui est l'histoire de la séparation imposée par son mari, la séparation de son fils. Je sais. Chaque fois que je poste sur Facebook, sur Instagram, chaque fois que je like, chaque fois que je commente, que ça peut être utilisé contre moi. À l'appui de ces conclusions, l'été dernier, Laurent a produit plusieurs photos publiées par moi ou par certains de mes amis. Des photos sans connotation sexuelle. Des photos sans drogue, sans alcool. Des photos sans rapport avec Paul. Tout peut être interprété, sorti de son contexte, de sa légèreté. Même Proust, si c'est Sodome et Gomorre. Dehors, c'est MeToo et le mariage pour tous, mais c'est pour de faux. En vrai, un juge m'oblige à être une mère sous bracelet électronique à la demande de celui qui est encore mon mari. En vrai, un juge dit à un petit garçon qui sera un homme, mon fils, que sa mère est coupable parce que son père tout-puissant le décide. Qu'elle n'est pas vraiment une mère puisqu'elle n'est pas vraiment une femme, puisqu'elle n'aime pas vraiment les hommes. Que le droit est toujours du côté du plus fort et que la liberté n'est qu'une farce. Pour rester pur, je fais mon signe de croix au lubrifiant. Je récite mon credo en jockstrap et en confiteor en pince à sein. La justice est porno, l'amour est porno, la famille est porno. Il n'y a que le sexe qui ne l'est jamais. Puisqu'on se tait pour une fois, puisqu'on arrête de mentir. Deuxième passage. Mon chéri, n'écoute pas ceux qui disent que c'est grave qu'on ne se voit pas. N'écoute pas ceux qui disent que je dois te manquer et comme tu dois être malheureux. N'écoute pas ceux qui prennent un air gêné quand il est question de moi ou de la situation ou de toutes ces choses. Je sais que tu sais qu'il ne faut rien écouter et que les gens racontent n'importe quoi. Tu sais très bien baisser les yeux et laisser dire. Le procès, les mensonges, le théâtre, il me semble presque inutile de t'en parler. Tu as très bien compris ce qu'était la justice. Il faut dire que c'est vite vu. Et puis l'amour quand ça tourne mal. C'est bien pour ton éducation. Ce n'est pas ma faute si c'est un peu brutal. C'est la vie qui l'est. Tu te souviens de la corrida ? Tu avais quoi, 6 ans ? les gens me regardaient déjà comme une dingue de t'emmener voir ça. J'aime la corrida pour sa vérité. La vérité de la violence, de la peur, de la mort. C'est pour ça que c'est beau. C'est une grande fête de voir qu'on peut supporter les choses. Quant à ton père et moi, et sa colère contre moi, et tout ce qu'il a pu dire sur moi, au juge et à toi, ne t'en offusque pas. Ne lui en veux pas. C'est banal, tu sais, que d'anciens amants se disputent. C'est une vieille histoire, les fioles d'acide qu'on se jette au visage quand on ne s'aime plus. Pour tout te dire, je préfère encore ça aux gens qui dînent ensemble le jour de leur divorce. Je préfère la vérité de la guerre à l'hypocrisie de la paix. Je ne sais pas si tu me hais. Tu n'as pas à me répondre. Tu as le droit de me haïr. C'est même une nécessité de l'amour de haïr. Il n'y a pas d'amour sans haine. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs ou des lâches. Une nécessité de l'amour d'un enfant pour ses parents, plus encore d'un fils pour sa mère, de la haïr. Pourtant, beaucoup de fils n'y arrivent jamais. Moi-même, qui suis une fille, qui ai aimé ma mère comme un fils, je ne sais pas si j'y serais parvenu. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est morte, parce qu'elle savait que je n'aurais pas eu le courage de la tuer. Et qu'il faut bien tuer qui on aime, savoir qu'on en est capable, qu'on en a toujours le droit. L'amour est une sauvagerie. Ne sois pas triste si tu penses à moi. Ça ne sert à rien, la tristesse. Si tu es triste quand même, sache que je pense à toi tous les jours. Je suis ta mère. C'est quelque chose qui ne cesse jamais. Je t'embrasse. Maman. Entre parenthèses, lettre jamais postée. La joie, non.
On se dit que c'est peut-être bien qu'elle ne l'ait jamais postée. Je ne sais pas quel âge a son gamin quand elle écrit ça.
Elle doit avoir, il doit avoir, je sais pas, 8-10 ans, un truc comme ça. Mais c'est ça, Constance Debray, c'est vraiment concentrer. C'est de l'huile essentielle de je ne sais pas quoi, d'humanité, de je ne sais pas quoi. Mais ça me, voilà, ça me plaît et ça me plaît pour la liberté qu'elle se donne en littérature, mais aussi en tant que femme et aussi en tant qu'être humain. Pour moi, le féminisme, c'est aussi et avant tout, peut-être, pour moi, une liberté.
Merci. Bravo. Eh bien, moi, je profite de cette émission consacrée aux femmes et au féminisme pour vous parler encore une fois de Cécile Morel, avec qui nous avons eu la joie de travailler en atelier. Le nouveau spectacle de Cécile s'intitule « La trouée ». Et comme c'est quand même pas très clair, elle éprouve le besoin sur son site de l'expliquer. « Trouée », dit-elle, « non féminin, large ouverture qui permet le passage ou qui laisse voir ». La trouée, c'est l'histoire d'une jeune femme qui revient au pays, la Picardie. Je ne sais pas si vous voyez où c'est la Picardie. Vu d'ici, c'est très loin. Hein. C'est tout là-haut, entre Reims et Paris. Et Cécile tente de répondre à une question qu'on comprend qu'elle se la pose. Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ? Parce que quand on connaît la Picardie, c'est vrai que c'est quand même pas les roses. Ça donne pas franchement envie d'y aller. Hein. À part les roses, il n'y a pas grand-chose. Et donc, elle y va pourquoi ? Eh bien, pour traverser les campagnes, creuser la terre, dit-elle. Écouter les silences des femmes de ferme. Percer la brume, les mettre en lumière, ouvrir ici les gens de là-bas, faire une brèche, partir en voyage, tout près de chez soi. Et en fait, elle va là-bas, de ferme en ferme, pour donner la parole à celles qui ne l'ont pas, puisqu'elles n'ont même pas de statut, elles n'existent pas. Ce sont les agricultrices. Agricultrices, ça n'existe pas. C'est femmes de paysans. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de retraite, évidemment. Elles bossent comme les hommes et elles n'ont strictement aucune reconnaissance. Et donc, Cécile va recueillir leurs paroles et elle va en faire son spectacle, La Trouée. Mais en travaillant au spectacle La Trouée, elle a tenu un carnet de campagne qui a été diffusé sous forme de podcast par la radio R22. Je vous en livre ici un extrait et vous trouverez sur le site de RPH l'adresse de R22 où trouver tous les autres podcasts. Rire et pleurer en écoutant Cécile raconter son pays, ses paysans et surtout ses paysannes, ces taiseuses qu'il faut écouter longtemps pour entendre leurs paroles.
Le spectacle, il aurait pu s'appeler La Chartière. Mes frères, ils m'appelaient comme ça quand j'étais petite, parce que je parlais fort. Enfin, je parlais pas, je gueulais. Sûrement pour exister face à eux, pour pas qu'on oublie la fille. Un vrai garçon manqué, que les autres, ils disaient. Sûrement parce que j'avais compris qu'être fille, au pays des rustres, ça allait être coton. Fallait l'ouvrir. La trouer, c'est un peu ça que ça veut dire. Ouvrir grand la bouche et gueuler. Quand Émilie me propose d'aller voir Marilyn, et surtout un élevage de cochons, je dis tout de suite oui. Parce que petit 1, elle s'appelle comme Monroe, et petit 2, j'adorais les cochons. C'était mon animal préféré. Clara, mon amie d'enfance, m'appelait Marilyn Groingouin. J'aimais tellement cet animal que j'en faisais la collection. Des peluches en cochon, des porte-clés, des figurines, bref, tout ce qui portait l'inscription « cochon », je gardais. Jusqu'au jour où mon grand-père a acheté un cochon à ma petite cousine et pas à moi. Et qu'ensuite j'ai dû nettoyer son enclos toutes les deux semaines parce qu'elle refusait de le faire, prétextant qu'elle me le prêtait et que c'était pas son cochon. Bref. On arrive là-bas, dans l'élevage de Marilyn. C'est tellement bruyant. Il y a toutes les truies qui se font têter par quantité de porcelets. Lucille et Émilie trouvent que ça pue. Moi, étonnamment, j'aime bien. Ils peuvent sortir en plein air. Leurs enclos sont larges. On arrive pendant qu'il les nourrit. Le Marine Marilyn. Dans le magasin qui vend du cochon, mais pas que. Il y a aussi de la bière, des volailles, des pâtes bio, du pâté. Marilyn, elle est là. Large. Un petit nez de cochon. Marrant comme elle ressemble à l'animal. Mais c'est pas méchant dans ma bouche. Elle nous dit qu'elle s'était jurée de ne pas se marier avec un agriculteur. Tout, mais pas ça. Bon, puis elle rajoute, c'est raté, ça fait 30 ans que ça dure. Un jour, je sais plus si c'est son petit garçon ou elle, bref, ils ont donné un prénom à une truie. Il faut jamais faire ça. Parce qu'après, pour la tuer, c'est quasiment impossible. On s'attache à l'animal. Une de ces truies, très farouche, a une portée. Tous les jours, Marilyn va la voir, tous les jours, elle lui parle, et une relation se tisse entre elles. De la confiance, certainement. L'animal s'habitue à sa présence. Presque dans ses grognements, Marilyn pense qu'elle lui parle. Jusqu'au jour où la truie met bas, et Marilyn s'approche de l'enclos, mais elle sait qu'il faut pas s'approcher des petits au risque de se faire attaquer par la mère. Mais là, ça s'inverse. La truie l'invite dans l'enclos, lui présente un à un ses petits, comme le ferait une fille à sa mère. Marilyn, elle avait l'impression de devenir sa grand-mère, sage-femme, accoucheuse, tati. Quand il a fallu tuer la bête, elle a tenté de demander à son mari qu'exceptionnellement, est-ce que c'est possible de la garder, ce petit animal, comme un animal de compagnie? Mais en vain. Ce spectacle, il aurait pu s'appeler aussi Vélage, faire accoucher la terre qui m'a vu naître. Faire parler toutes ces femmes, les accoucher à mon tour. Quand j'étais petite, les vélages, c'était interdit. On n'avait pas le droit d'aller voir, sauf moi. Je n'attendais que ça. Qu'une vache n'y arrive pas et qu'on doive l'aider à la délivrance. Ma mémé était trop forte. Elle enfonçait son bras dans le cul de la vache, attachait une corde au pied du veau, à l'intérieur, et puis ensuite, il fallait tirer, tirer de toutes nos forces en suivant les contractions de l'animal. Et pouf, un petit paquet plein de viscuosité tombait à terre. Fallait faire gaffe qu'il se pète pas les hanches lors de la chute. Fallait vérifier tout de suite si c'était un mâle ou une femelle. Les femelles, c'était cool. Ça voulait dire qu'on la garderait dans le troupeau des vaches laitières. Y a qu'à la campagne, dans les fermes laitières, qu'on est content quand c'est des femelles qui arrivent. Je me demande pourquoi c'est pas pareil quand il s'agit de reprendre une ferme. Pourquoi on n'est pas content quand c'est une fille qui reprend? Ensuite, on enregistrait le numéro de la vache. Ensuite, on préparait les papiers sur la grande table, sur la toile cirée, pour déclarer la naissance le lendemain. Et ensuite, on allait se recoucher au milieu de la nuit. La vache ne gueulait plus, le petit tétait, et moi j'étais si fière d'avoir aidé ma grand-mère.
Où règne la confusion.
C'était Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, que vous retrouvez les deuxièmes samedis et deuxièmes dimanches du mois à 10h sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
I am the ocean. Sorry for my mistakes. I am taking.